Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des commissaires de course, une émission un peu spéciale puisqu'on a la chance d'avoir un invité ce soir en la personne de Patrick Chassé. Bonsoir Patrick.
Bonsoir Charles, bonsoir à tous.
Et pour poser des questions à Patrick, j'ai avec moi Alexandre
Bonsoir.
et Greg.
Bonsoir Charles, bonsoir à tous.
Alors pour vous donner un petit peu le plan, on a prévu de faire quelque chose en deux parties. Tout d'abord, on va traiter un petit peu l'actu, peut-être ce qu'on va appeler le cyclisme à deux vitesses, si tant est qu'il existe, et puis un peu les nouvelles règles de l'UCI. Et ensuite, on évoquera avec Patrick forcément la question des droits télé et de leur répartition. Mais pour commencer, on a un petit sujet d'actu, puisque il y a eu une petite polémique entre guillemets sur les réseaux sociaux, Patrick, suite à un de tes commentaires dans l'émission Ça va frotter, je crois, ou le débrief, je ne sais plus, où tu as évoqué le sprint de Nasser Bouhanni. Et si je ne me trompe pas, il y a eu une petite pique à la fin de la réponse du sprinteur français sur la société que tu diriges, c'est-à-dire Velops. Donc j'avais une question toute con à te poser. Es-tu un agent à la solde de Marc Madiot et de la Groupama FDJ?
Eh bien, oui, voilà, c'est
C'est
fait,
bien ce que je
voilà.
pensais.
Voilà. Bon, non, mais oui, bien sûr. Alors, déjà, il faut savoir que Marc Madiot, c'était mon premier consultant, quasiment. Il y a eu Alain Bondu, et Marc Madiot est venu très vite aussi. Ça nous ramène au début des années 90. Donc, il y a effectivement des liens. Mais Marc a été toujours un copain, mais pas un ami. Vous imaginez forcément la nuance. C'est-à-dire qu'on a toujours, on s'appelle assez régulièrement, c'est toujours pour du boulot. On peut se demander comment ça va et comment va la famille, mais on n'est pas des potes. Et ce n'est pas forcément non plus des relations de travail. Je crois qu'on est des relations de vélo. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on parle de vélo. Bon, Marc, il a tendance à parler, manger, dormir, respirer vélo depuis le plus jeune âge, j'imagine. Donc voilà, ça, c'est les relations que j'ai avec lui. Et c'est vrai que quand j'ai monté Velops, bah déjà, en quittant Eurosport, de toute façon, il y avait des bouches à nourrir, il fallait que je trouve un boulot rapidement. J'ai monté Velops et comment dire, la Française des Jeux, la FDJ, l'équipe de Marc Madiot n'a pas été d'ailleurs le premier client. Le premier client, c'était AG2R, la mondiale. Mais ça a été rapidement, on va dire, le deuxième. Et aujourd'hui encore, on a effectivement comment dire, Groupama FDJ qui est une équipe pour laquelle on bosse depuis toujours, mais on a d'autres clients, y compris dans le vélo. On a des équipes. Alors, j'ai aujourd'hui, en temps normal, j'aurais pas trop de scrupules à les citer. Là, je commence à en avoir parce que j'ai pas envie de les mêler à ce genre de querelle. Mais j'ai répondu en privé parce que moi, Twitter, c'est pas forcément mon. Enfin, j'ai pas forcément envie de polémiquer là-dessus. J'ai répondu sur Twitter, mais surtout pour donner la vidéo de ce qui faisait apparemment, de ce qui causait une fâcherie. Mais à lui, je lui ai écrit, je lui ai dit, écoute, je ne comprends pas, voilà, et puis sache quand même que Velops travaille pour plusieurs équipes, pour plusieurs organisateurs, et pas des moindres. Et on a même travaillé pour Cofidis à l'époque où il y était, et je lui dis, ça ne te gênait pas à l'époque. Enfin, voilà, je n'ai pas du tout compris. Et je sais que, du coup, beaucoup de gens semblent dire, oh là là, on a levé comment dire? Un malaise, un scandale, un truc, mais non, je m'en suis jamais caché. Primo, je me considère, c'est pas que je me considère pas, je ne suis plus journaliste. Je ne suis plus journaliste depuis le 1er janvier 2010. Je n'ai plus de carte de presse. À partir du moment où j'ai quitté Eurosport, j'ai considéré que je n'étais plus journaliste. Ça ne veut pas dire que ce que je fais n'est pas une activité journalistique, mais je me considère comme un commentateur. Je me considère comme un chroniqueur, surtout quand je suis dans des émissions de débat, commentateur quand je commente. Et c'est pas nouveau. C'est pas, alors, quand je dis c'est pas nouveau, Robert Chapat n'avait pas de carte de presse, en tout cas pendant un bon moment quand il a commenté. Si Jackie Durand, c'est tout ce qu'il pourrait commenter, il n'a pas de carte de presse. Alors peut-être que ça, c'est pas le point gênant pour les gens. Je crois que le point gênant, c'est que j'ai à côté une boîte qui travaille pour des acteurs, on va dire, du vélo. Mais là aussi, je m'en cache pas. Et il m'est arrivé, je crois pas sur la chaîne L'Équipe, mais il m'est arrivé, par exemple, sur Europe 1, de dire que ça me gênait de répondre à une question. Quand on me demandait, par exemple, quel était le coureur dont je me sentais le plus proche, je disais clairement, ça me gêne cette question. Ça me gêne parce que finalement, là, je suis pas objectif. Bien sûr, je connais beaucoup mieux certains coureurs que d'autres, notamment ceux qui sont dans des équipes qui travaillaient ou qui travaillent encore, enfin pour lesquels on a travaillé ou pour lesquels on travaille encore. Oui, j'ai une affection particulière pour plusieurs coureurs, mais Est-ce que c'est très intéressant, ça? Je
Mais
ne
est-ce que
crois
ce qui est
pas.
pas gênant, Patrick, dans ce genre d'attaque, c'est qu'on remette en cause en fait ton intégrité, comme si on pouvait pas considérer que tu puisses faire la part des choses en fait entre ton boulot de commentateur et puis les équipes professionnelles?
Quand on s'est engueulé sur cette histoire qui a amené finalement Nasser à me faire un mot, j'ai eu au téléphone Emmanuel Hubert, avec qui j'ai des relations depuis longtemps. D'ailleurs, lui aussi, il a été client de Velops, enfin son équipe, dans un passé récent. Il me disait, il y a un conflit d'intérêts quand même que tu peux pas nier. Je dis, conflit d'intérêts? Il me dit, oui, regarde par exemple tel banquier qui est dans un conseil d'administration et qui est également PDG d'une banque. Et je lui disais, mais ça n'a rien à voir. Je ne prends aucune décision dans le vélo. Je n'ai pas de vie, je n'ai pas avis, comment dire, voix au chapitre pour prendre, je sais pas moi, les décisions que prennent les dirigeants du cyclisme. Je suis là pour commenter. Et aujourd'hui, c'est pas moi qui l'ai inventé. Aujourd'hui, pas dans le sport spécialement, mais partout, on voit des commentateurs qui commentent. Alors, il y a ceux qui commentent des choses, des sujets sur lesquels, d'ailleurs, ils sont complètement ignorants, mais je passe là-dessus. Je pense à certains chroniqueurs sur des chaînes info. Mais il y a aussi des gens qu'on fait intervenir parce qu'ils sont censés avoir une compétence. Et toutefois, on sait, parce que c'est normalement, c'est dit, eh bien, qu'ils sont partie prenante sur ces sujets. Tel expert on parle de la transition écologique, on va avoir quelqu'un qui représente un lobby ou un autre. Telle comment dire, discussion sur la pandémie, on va avoir un chercheur qui travaille soit pour un labo, soit pour le gouvernement, soit. Enfin, voilà, on est tous engagés. Je crois que le plus important, tu l'as dit, c'est d'être honnête. Honnête d'abord, parce que si on n'est pas honnête avec soi-même, ça devient difficile, mais honnête tout court, être sincère. Et puis, je crois qu'il faut aussi faire preuve d'une certaine transparence. Alors moi, je ne crie pas sur les toits que j'ai une boîte qui s'appelle Velops, parce qu'on me reprocherait de faire de la pub. Donc je crois que je suis assez discret là-dessus. Mais tu vois que du coup, c'est un petit peu, c'est un peu délicat, quoi. C'est-à-dire, on le dit quand c'est nécessaire, on le dit pas si c'est pas indispensable. Et je crois que les gens ont retenu qu'on bossait, enfin que l'on avait comme client Groupama FDJ depuis longtemps, bah parce que c'est ancien, parce qu'il y a eu une époque où je commentais pas et où je travaillais pour eux, et maintenant que je travaille régulièrement pour la chaîne d'équipe, bah au contraire, je me suis mis un petit peu en retrait. J'ai un chef de projet qui est excellent, qui s'appelle Alexandre Philippon, qui travaille pour moi depuis très longtemps et qui finalement prend en charge tout ce qui est lié à Groupama FDJ. J'ai une anecdote. Il y a 2 ans, quand on est sur le Tour de France et que la veille de l'étape de Tignes, eh bien, Thibaut Pinot descend de son vélo et a mal au genou, tout le monde est au courant, tout le monde le sait. Alexandre le sait, puisqu'on a Velops à 3 ou 4 personnes qui sont sur le tour dans l'équipe, autour de l'équipe à ce moment-là. Ils ne me disent rien. Moi, c'est l'année où je fais le Tour de France en prenant le train, avec mon vélo sous le bras. Ils ne me disent rien. Rien du tout. Je suis comme un couillon en train de monter à Tignes et de m'escrimer sur mon vélo parce qu'il n'y a pas d'autocar pour monter là-haut. Et puis, je me mets la télé pour passer le temps sur mon téléphone portable. Et là, je vois comme tout le monde que Thibaut s'arrête et je découvre ça. Et le soir, Alex me dit, on n'a pas voulu te le dire, on ne voulait pas t'influencer, on ne voulait pas, toi qui parles sur Europe 1, que. Voilà, c'est ça, je dirais, notre petit principe de précaution. Et l'autre truc, c'est qu'à chaque fois, mes clients, je leur dis, attention, moi, quand je suis journaliste, je veux garder ma liberté de parole. Je ne l'aurai déjà pas complètement, parce qu'il y aura peut-être des moments où je serai gêné aux entournures, mais laissez-moi au moins dire ce que j'ai envie de le dire, quand j'ai envie de le dire, à partir du moment où je suis honnête. Et vous vous souvenez, enfin, je ne sais pas si vous avez regardé justement le débrief d'À travers la Flandre. À un moment, on parle de Démare et de Turgis. Turgis, on fait une comparaison. Il y a Cédric Pinault qui vient de parler de Turgis. Et moi, je rebondis sur Démare. Comme on est à la radio, hein, d'une certaine façon, je vous le fais écouter. Ça dure à peine 30 secondes. Écoutez ce que je raconte.
Anthony Turgis, il se débrouille pas tout seul. Il a une équipe quand même autour de lui, mais c'est pas une world team. Il va chercher régulièrement des top 12 hein, sur les 3 classiques qu'il a disputés dans les Flandres. Arnaud Démare, il est aux pâquerettes là. Il a une équipe qui est complètement à son service. Et finalement, depuis sa deuxième place lors de, je crois, la première étape de Paris-Nice, ça fait quoi, 4 semaines qu'on le voit plus dans aucun top 10. Donc, il doit quand même se reprendre. Alors, vous me direz, on ne va pas lutter s'il fait 26e de Milan-San Remo, c'est pas qu'il fasse 26e ou 12e, ça ne change rien. Mais dans la tête, ça doit quand même un petit peu gamberger.
Voilà. Donc moi, ça c'est typique. Enfin, j'ai pas fait exprès, mais on me l'a ressorti après coup quand justement un collègue a vu ce qui se passait avec Nasser Bouhanni. Vous croyez qu'Arnaud Démare, il m'a passé un coup de fil pour me dire c'est pas cool ce que tu as dit, la comparaison avec Turgis, la différence de moyens entre les deux équipes. Est-ce que vous croyez que Marc Madiot m'a appelé? Mais il m'a pas appelé. Enfin, mais ils savent que je quand je Que je, enfin, il faut garder sa spontanéité. Est-ce qu'il y a mort d'homme là? Est-ce que j'ai manqué de respect à Arnaud Démare?
Non, bah
Est-ce que je
non, bien
suis
sûr que non.
acheté par le capital de Total Direct Energy pour dire du bien de Turgis? J'aimerais bien, ils sont pas. Enfin non, je ne vois pas d'ailleurs, mais ils sont pas cons. Donc de toute façon, c'est réglé. Mais voilà. Donc non, mais franchement, après, j'ai pas poussé le truc plus loin. Je crois qu'on parle de sport, on commente du sport, on ne fait pas le sport, on ne fait pas la loi. Il y a un truc qui est naturel, c'est de parler plus de, peut-être de parler plus des coureurs qu'on connaît le mieux. Alors là, on se met un petit peu en rappel, en trapèze, on fait comme à la voile. Le sport, le vélo, c'est de la voile, hein, c'est bien connu. Guimard le dit tout le temps. Bah, c'est un peu ça. Imaginez, on se met en rappel pour essayer de contrebalancer. Alors on est conscient que parce qu'on connaît bien certains courants, on risque d'en parler un petit peu trop. Ben oui, on peut me faire ce reproche-là. J'essaie de lutter contre. De la même façon, je pense que Marion Roux essaye aussi de ne pas trop parler des équipes
De
qu'on
la
connaît
FIP.
mieux, d'Alaphilippe et sûrement de l'équipe de Koenig Quick-Step. Et c'est pas moi qui lui ferai ce procès-là, parce que je suis sûr qu'elle essaye justement de compenser, je ne sais pas si c'est le mot qui convient, mais en tout cas d'être équitable, d'être honnête avec tout le monde, et puis peut-être de plus travailler sur les coureurs qu'elle connaît moins. C'est normal. J'essaye de faire pareil.
Les gars, vous avez des questions par rapport à ça?
Ben non, je pense que c'était clair, merci.
Ah,
Belle mise au point. Il y a une vieille qui sait de
impeccable.
prendre la parole et de la garder comme ça.
Voilà. C'est ça,
C'est
t'as
à faire
rien à
la
faire
fin.
pendant l'émission, tu lances Patrick sur un truc, tu reviens au bout d'une demi-heure.
Bonne soirée et à demain.
T'es tranquille.
Pardon d'avoir fait long, mais bon,
Non,
vous me
non, mais
connaissez un
c'était
peu,
très
je sais
bien,
pas
ça
le faire.
méritait une explication. Je trouve. Bref, on va passer au deuxième sujet. Du coup, Patrick, si tu le veux bien, un peu ce qu'on a
Actu.
appelé un sujet un peu fourre-tout, l'actualité, entre guillemets. Je crois que Greg, tu voulais commencer par les nouvelles règles mises en place par l'UCI au 1er avril.
Oui, bah, c'est un peu ton parler enfin, sur le forum et notamment après le enfin, quand c'est Char, je crois, Michael Char, qui a été mis hors course pour son jet de bidon à des spectateurs. C'est la nouvelle règle UCI depuis le 1er avril. Et moi, il me semble avoir entendu de longs débats avec de toi et avec Cyril Guimard aussi sur les bidons lancés en pleine nature. Donc, on voulait un peu en parler ce soir pour trouver peut-être. Enfin, est-ce que c'est. Aller jusqu'à exclure un coureur, c'est juste. Est-ce qu'il fallait autant, pour autant, le statu quo avec des bidons ou des emballages qui traînent un peu partout dans la nature? Ben voilà, quelle est ton opinion là-dessus?
Bah, il y a eu une forme de conférence de presse qui a été organisée par l'UCI il y a quelque temps pour les journalistes de cyclisme. Moi, je n'ai pas pu y assister en direct, mais ils ont fait un fichier qu'ils nous envoyaient après. C'était très intéressant, explicite. J'avoue que quand j'ai vu Jackie Durand m'a toujours appris à être très. D'ailleurs, lui, il n'était pas au point ce jour-là, lors du Tour des Flandres. Mais il m'a appris qu'il fallait vraiment faire gaffe au règlement, surtout quand il y a un nouveau règlement. Les règlements qui sont réécrits en rouge hein, quand ils sont nouveaux. J'avoue que quand j'ai vu Michael Schaar jeter son bidon, je me suis tout de suite dit, allez, virer. Parce que j'avais vu effectivement ce point de règlement que dans une course d'un jour, c'était mis hors course directe. Et je me suis demandé s'ils allaient le faire, quoi. Mais après, je ne sais pas quoi penser de. Comment dire? Je ne sais pas ce qui a été dit aux coureurs, si on a pris la chose au sérieux comme ça. Parce que, vous savez, il y a des automatismes qui sont pris. Quand on a pris l'habitude de jeter ses bidons,
Oui,
bah.
depuis 10 ans, quelqu'un qui a 10 ans de carrière derrière lui, je pense que
Voilà,
c'est compliqué.
pas le jeter pour polluer, pas le jeter au fin fond d'une vallée, non, le jeter aux pieds de spectateurs, comme on le voit si souvent.
Bah, c'est un automatisme, c'est un petit peu, voilà, c'est un réflexe un peu pavlovien, donc enfin, ça fait moins mal quand même, mais on agite de cette façon-là. Enfin, là, ça fait très mal, quoi. Là, du coup, il s'est pris une bonne décharge, viré tout de suite.
Ouais, puis ça crée des situations un peu curieuses, que enfin, t'as vu comme nous, hein, dans le final, quand Van der Poel et Asgreen, chacun leur tour, lors du Tour des Flandres, jettent leur bidon, tu sais pas si c'est une zone de collecte, tu dis putain, s'il est foutu hors course.
Bah, si, ça aussi, ça s'est bien mentionné. Moi, je suis un peu inquiet par rapport aux petites épreuves. Bon, même si pour l'instant, ce point de règlement, c'est sur les grandes épreuves, il va falloir quand même mettre en place une organisation qui risque d'être assez lourde à assumer. Et puis, vous avez posé un point important, c'est la gravité de la sanction. C'est-à-dire que alors pardon, je ne sais pas si c'est Greg ou Alex qui a fait cette allusion au fait qu'on en parlait avec Cyril Guimard, c'était un petit peu
C'est Greg, ouais.
ouais,
Guimard,
Greg,
ouais.
notre point de désaccord, enfin notre point de désaccord, on joue parfois hein, sur les désaccords, parce que je crois qu'en fait avec Cyril on est plutôt assez d'accord sur ce point-là, hein, mais on ne l'admettra jamais. Mais en ce qui concerne la sanction, donc on est tous d'accord que, enfin moi en tout cas, j'ai jamais été convaincu par le fait qu'on me dise le bidon qu'on jette au pied de. Enfin, les bidons sont toujours récupérés. Non, 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 non. D'ailleurs, surtout en ce moment où il n'y a pas de spectateurs, enfin, depuis un an. Non, les bidons ne sont pas toujours récupérés. Les bidons, moi, pour avoir quand même été souvent sur des courses de vélo, on en voit traîner. J'ai fait une fois l'expérience hein, de m'arrêter à un endroit où justement j'avais vu un bidon et en m'arrêtant j'en ai ramassé trois. Donc et en fouillant un petit peu, hein, ils n'étaient pas bien en évidence. Donc non, ils jettent des bidons la plupart du temps, en tout cas c'était le cas auparavant, n'importe comment, n'importe où. Oui, quand ils peuvent faire plaisir, ils le font, mais c'est loin d'être systématique. Donc cette mesure, elle était nécessaire. Est-ce qu'il faut mettre hors course un mec pour ça? Bah moi, je trouve qu'il rate l'UCI rate l'occasion de remplir ses caisses, quoi.
Ah bah
Vaut peut-être
clairement.
mieux,
Ouais.
mettre une amende très importante, dissuasive, pas 100 balles, hein, faut sûrement faire plus, mais qui ne pénalise pas comment dire, la course. En tout cas, peut-être dans 6 mois, on pourra transformer ça quand tout le monde aura pris l'habitude, mais là, pas tout de suite. Faut quand même Il faut laisser quand même une chance au coureur. Oui, j'aurais plutôt mis une amende pécuniaire qu'une mise hors course. Toi, tu disais, Charles, il y a un instant, on a eu peur pour les deux finalistes, hein, les deux favoris, enfin les deux derniers à l'avant qui se sont disputés la victoire dans le Tour des Flandres. Mais ça aurait l'air de quoi si l'un des deux, ou voire les deux, avait été déclassé? Et c'était une catastrophe. Soit ils n'appliquaient pas le règlement, dans ce cas-là, ils étaient
Ouais, mais si
complètement
t'as
sur
sorti
leur
Char, t'es obligé de les sortir, c'est ça le truc en plus.
faim.
Et ouais. Et on a vu ça parfois dans le sport, l'application de règles dans le foot, etc. Parfois des règles qui sont vachement dures. Et moi, voilà, c'est ma seule réserve. Sur le fond, il faut changer les habitudes. Parce que voilà, tout ce qui a été, ce que je ne pourrais dire que des choses qui ont été dites maintes et maintes fois, parce que l'image qu'on donne, elle n'est pas bonne, parce que sur le fond, de toute façon, un jeune adulte ou un enfant, on ne l'éduque pas à acheter n'importe quoi, n'importe comment. Parce que moi, j'ai fait du vélo en 3 et 4 avec des poils aux pattes, mais je me rappelle que c'est pas mon dirigeant qui m'a appris à ne pas acheter des papiers, c'était mes parents. Je mettais les papiers dans ma poche et c'était il y a 40 ans. Donc, enfin, je pense que je juge pas les gens à qui on n'a pas imposé ça il y a 10, 15, 20 ou 30 ans, peu importe. Je trouve que c'est dans la logique des choses Alors après, voilà, le mec, s'il est en train de perdre la course et qu'il fait tomber un bidon ou qu'il balance un bidon, j'en sais rien, il doit y avoir quand même malgré tout une compréhension des commissaires quand à un moment, je sais pas quoi, un bidon peut lui faire perdre. La course, ou je sais pas, j'ai pas le cas de figure en tête, mais voilà, il faudra quand même faire preuve d'un peu de compréhension. Mais ça, c'est il y a toujours une façon d'aménager un règlement pour un commissaire. C'est un arbitre, il doit analyser la situation qui se présente à lui. Donc là, ils sont sévères pour l'instant. Bon, on va voir ce que ça donne. Je pense que de toute façon, quand on veut qu'un règlement soit appliqué, il faut être sévère.
Alex, tu as des questions par rapport à ces nouvelles règles, ces nouvelles mesures mises en place par l'UCI?
Non, je pense aussi, comme Patrick, c'est un petit peu sévère, un peu extrême ce choix de carrément, on va dire, mettre hors course le coureur. Il y aurait vraiment moyen, en effet, de se faire un peu plus d'argent en mettant une amende assez élevée. Mais c'est vrai qu'il y a des fois des choix de la part de l'UCI qui sont un petit peu durs à comprendre. Bon, et qu'à penser aussi, là maintenant, ils ont demandé aux coureurs d'arrêter de se prendre dans les bras lors d'une victoire. Ça me fait penser un peu aussi, un peu comme au rugby, où ils ont dit la même chose, et alors que les joueurs, pendant 80 minutes, sont là à se faire démêler, à être les uns contre les autres. Alors que voilà, les coureurs cyclistes sont testés tout le temps. Voilà, je trouve des fois des décisions un petit peu étranges. Après, jeter les bidons un peu n'importe où, en effet, c'est pas montrer d'exemple par rapport aux plus jeunes. Après, vraiment mettre un coureur hors course, c'est très dur, surtout bah, qu'ils ont encore les automatismes, quoi.
Moi, j'ai juste réagi, pardon, je fais rapide. J'ai juste réagi vis-à-vis de Cyril, je crois, et récemment, où il disait, voilà, on ne pourra plus donner un bidon aux gamins. Et je dis, mais c'est pas des gamins, enfin, les gamins et leurs parents, ils sont pas bêtes, hein. Ils vont aller dans les zones de collecte. S'il y en a une dizaine sur le parcours,
Oui, tu
ils
vas après
sauront.
un ravito, hein, souvent c'est.
Voilà, ils sauront aller trouver le bidon. Enfin, faut arrêter de nous faire pleurer avec des larmes de crocodile sur ces pauvres gamins à qui on va pouvoir faire un plaisir avec un bidon. Parce que faut pas non plus exagérer, hein. C'est pas si fréquent que ça de revenir d'une course de vélo avec un bidon donné par un coureur. C'est même assez rare. Donc voilà, celui qui veut avoir son bidon, je pense qu'il saura comment se débrouiller.
Ah bah moi gamin, je sais qu'il fallait aller à la fin de la zone de ravito, puis c'est là que tu récupérais les bidons et t'étais content. En gros, c'était ce qui se passait à peu près. Mais j'avais une autre question, moi, Patrick, par rapport à ce règlement UCI. C'est par rapport à pas forcément que la position Mohoric, hein, mais par rapport aux différents types de positions qui ont été interdits. J'en avais parlé il y a quelques semaines avec Pavel Sivakov et je partageais un peu sa réflexion et je voulais avoir ton avis. Dans le sens où il disait que pourquoi pas, mais c'est peut-être pas la priorité, parce que quand on voit tous les aménagements urbains dans les finales des courses, c'était peut-être là où il fallait essayer de faire quelque chose sur les parcours, plutôt que de parler de sécurité sur des positions qui existent depuis longtemps au final et où il n'y a pas eu tant d'accidents que ça, même voire pas du tout.
Pour moi, c'est deux sujets différents. C'est-à-dire qu'on peut évoquer le sujet de la position. Moi, le sujet des positions, ça me paraît très difficile plus difficile à sanctionner que le bidon. C'est un petit peu comme les mecs à qui on va interdire de monter sur le trottoir, quoi, sur une Flandrienne.
Oui, on voit que ça marche pas, quoi.
On est par excellence dans le truc qui... Voilà, il y en a un, mais d'ailleurs, sur le Tour des Flandres, il y en a un qui a été sanctionné pour être monté sur un trottoir. Je ne sais plus qui, c'est arrivé en début de course. Et d'autres ne l'ont pas été. Donc ça, pour moi, c'est le pire. Ou alors, on estime que parfois c'est justifié, parfois ça ne l'est pas. Mais globalement, sur un Tour des Flandres, on voit bien que non, tout le monde continue. Donc c'est pas appliqué. Et l'histoire de la position, on a vu un Mathieu Van Der Poel dans une position qu'on connaît, enfin que tout le monde peut adopter, c'est-à-dire très allongé sur sa machine, mais en restant le cul sur la selle. Mais voilà, à quel moment réellement il sera sur la selle, à quel moment il n'y aura pas de contact. Enfin, on va pas demander à un commissaire d'aller passer sa main sous son cul pour voir si ça touche ou pas. Enfin, c'est n'importe quoi. Donc c'est là que je me dis, c'est compliqué, c'est... Je comprends d'un côté parfaitement pourquoi l'UCI prend cette décision. Là, en revanche, je suis beaucoup plus réservé que pour les bidons. Je me dis, est-ce que là, on s'attaque pas à un faux problème en faisant ça? Parce qu'un coureur cherchera toujours de toute façon à aller plus vite. Et donc, pour aller plus vite, il prendra toujours des risques. Si ce n'est pas dans cette position-là, ce sera dans une autre position, ou ce sera, je ne sais pas, en coupant les virages encore plus vite, en freinant le plus tard possible. Maintenant, ils ont des freins à disque qui peuvent... Enfin, je ne sais pas, vous faites du vélo. Parfois, on dit que les freins à disque, ça ne freine pas mieux Enfin, que les patins, c'est aussi bien que les freins à disque. Ben non, quand on est dans une descente de col, on peut freiner vachement tard, à partir du moment où on s'est bien dosé, on peut vraiment se faire plaisir. Donc, d'une certaine façon, le frein à disque pousse à la performance aussi dans une descente de col, par exemple. Donc, de toute façon, on ne peut pas aller contre la nature, qui est qu'un coureur cherchera toujours à aller plus vite. Ce serait contre la nature du sport lui-même. C'est pour ça que je suis un petit peu sceptique par rapport à cet interdit.
Alors ça me permet une transition parfaite, cette nature humaine à vouloir aller toujours plus
Je
vite.
vois.
Justement, Alex, je vais te passer la main pour parler un peu de ce qui se passe depuis quelques mois, depuis la reprise de la saison 2020 au mois d'août, où on voit des choses assez curieuses, on va dire.
Ouais, est-ce que pour toi, Patrick, ça va trop vite, justement, depuis l'an dernier, notamment?
Bah, alors, d'une certaine façon, oui. C'est-à-dire que c'est toujours pareil. Quand il y a des choses qu'on n'arrive pas à expliquer, quand les principaux protagonistes n'ont pas d'explication convaincante, on se met à douter. Je l'ai dit récemment c'était à Presse Océan, qui me posait la question. Je dis, moi, je pense que le doute est nécessaire. On a au moins besoin de douter. Alors, c'est chiant quand on doute. Attention, aujourd'hui, surtout sur les réseaux sociaux, on doute plus, on juge tout de suite. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de, on pose même plus la question, on a la réponse. Moi, j'ai pas la réponse, je vous le dis tout de suite. Je sais pas si la question est de savoir si Pogacar est dopé, si Mathieu Van Der Poel est dopé, etc. Je n'en sais rien. Je souhaite que ce soit pas le cas. Je n'en sais rien. Est-ce qu'il y a des signes extérieurs qui pourrait laisser penser ça? Bah, oui, mais de façon très indirecte. Quand on voit la tronche de Tom Dumoulin et compagnie, avec qui il est déjà? Avec Wout Van Aert,
Oui, c'est ça, ouais.
au
À la
dernier
planche des belles
chrono, là,
filles.
ils sont bouche bée comme des poissons rouges, à la planche des belles filles, ouais. Et en voyant arriver Pogacar, on se dit, waouh, même eux, ils n'en reviennent pas, quoi. Mais ça veut rien dire, ça. Ça veut pas dire que ça. Enfin, en soi, on n'a pas la démonstration. Oui, on peut ricaner en se disant ils sont pas dupes, etc. Mais on n'en sait strictement rien. Et en tout cas, un journaliste, un commentateur du vélo ne pourra pas en tirer la moindre conclusion. Moi, je me souviens quand même, Peyresourde avec Rasmussen et Contador. Me demandez pas l'année, mais enfin, vous savez bien de quelle année il s'agit, l'année où Rasmussen va être foutu dehors. Oui, il y avait une impression visuelle qui était énorme. Rico, c'était énorme. Là, je pense que si des coureurs trichent, de toute façon, des tricheurs, il y en a. Hein. Ça, il y en aura toujours. Il faut être clair là-dessus. Il faut arrêter de croire qu'il n'y a plus de dopage. Il y en a forcément, parce qu'il y en a partout. Et c'est l'histoire du monde. Mais la question, c'est est-ce que le vainqueur du tour triche? C'est quand même la question qui nous concerne et on aimerait bien avoir la réponse. Moi, j'ai le sentiment que visuellement, on ne peut pas en tirer des conclusions très claires. Alors, je sais qu'Antoine Vaillet mesure les puissances, etc. Il nous dit que ça, c'est un mutant. Etc. Bon, moi, je ne sais pas. Il y a une bataille d'experts en plus là-dessus. Il y a des fois, évidemment, quand je suis un peu scandalisé, j'aurais tendance à me dire, bah, finalement, Vaillé a raison. Il y a des fois, je me dis, quand je vois des belles défaillances, et pas forcément pour une fringale, bah tiens, finalement, il est très humain, ce jeune homme, ce coureur. Voilà. Et puis, il y a, et c'est là qu'il faut se méfier, c'est que j'ai quand même une certaine expérience et que j'ai tellement été échaudé par des histoires à répétition que il vaut mieux pas que je me laisse trop aller à tirer moi-même mes propres conclusions sans avoir, uniquement sur une conviction comme ça. Une
Est-ce
bonne
qu'on ne peut
surprise.
pas aussi. Oui. Pardon de couper. Est-ce qu'on ne peut pas, puisque tu parlais des tricheurs, est-ce que le problème, c'est justement pas que les seuls qui se font choper, c'est un Bardiani de temps en temps, un ou deux Américains du Sud sur leur tour local, et peut-être un Portugais sur le tour du Portugal?
Ouais, c'est possible, ou un coureur de Vinizabou. Mais
Qui a jamais mis un pied devant l'autre, mais.
ouais, les mecs ils se font gauler alors qu'ils avancent pas, c'est quand même très fort. Mais peut-être, typiquement là, voilà la question où je suis pas mal à l'aise pour répondre, mais où j'ai malheureusement pas la réponse. En revanche, et ça a toujours été un signe tangible que quelque chose ne va pas dans ce sport, c'est de retrouver à la tête d'une équipe en pointe, qui d'ailleurs va gagner l'année dernière le Tour de France, un type totalement toxique. De retrouver Mauro Gianetti, qui c'est plus des casseroles qui traînent, c'est une quincaillerie complète qu'il traîne derrière lui, qui lui-même a failli payer de sa vie lorsqu'il était coureur cycliste en essayant un produit qui n'avait jamais été mis au, qui était encore dans les tests cliniques, qui n'avait pas encore été finalisé. Ce que je raconte, c'est pas des rumeurs, hein. Ça a été écrit noir sur blanc, c'est factuel. Alain Galopin lui a sauvé la vie. À l'époque, il était d'ailleurs à la Française des Jeux. Donc, Gianetti, on a découvert que ce type était complètement fou. C'est un type adorable. Hein. Moi, je le croise, il dit bonjour. Il a l'air, franchement, humainement, il a l'air top. Mais en attendant, je ne comprends pas comment ce type, qui était à la tête de Saunier Duval, qui a dirigé tous ces coureurs qui ont été mis, qui ont été exclus à vie, comment est-il possible qu'on exclue autant de coureurs dans cette équipe de façon définitive pour dopage et que le principal dirigeant ne soit pas inquiété, ne soit pas menacé, ne fasse pas l'objet d'une procédure, ne soit pas suspendu, ne soit pas... Oui, il y en a un qui a été mis dehors définitivement, c'est Johan Bruinel. Oui, mais quand même, ça ne fait pas lourd hein, pour toute cette génération. Allez, on va dire Bruno Roussel aussi. Mais d'ailleurs, je ne sais même pas si Bruno Roussel a été exclu.
Je pense pas, même Manuel Steiss n'a pas été.
Non.
Non, c'est très rare. Moi, j'arrive pas à comprendre ça. Et il est revenu discrètement. Encore une fois, ce n'est pas personnel. Je n'ai rien contre Mauro Gianetti en tant que personne. Je ne comprends pas que l'institution, dirigée par quelqu'un qui a sûrement comme préoccupation l'éthique au plus haut point, je parle bien sûr de David Lapartien, je ne comprends pas comment il a pu laisser faire ça. Si Mauro Gianetti peut aujourd'hui diriger l'équipe du vainqueur du Tour de France, sans avoir jamais fait l'objet d'une sanction, alors que 10 ans auparavant, il a fait tout ce qu'on a dit, eh bien, c'est pas normal. Il y a une anomalie, il y a quelque chose qui ne marche pas dans ce sport.
Mais tu parlais d'interrogation, Patrick, ça m'amène toujours à cette équipe UAE. Enfin, moi, il y a des choses qui me dérangent. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis sur la notion d'interrogation plutôt que de tribunal populaire, toujours un peu facile et pratique pour expliquer les choses. Mais, tu vois, je vais prendre l'exemple de Marc Hirschi, par exemple, le transfert un peu surprise du Team Sunweb à UAE. Au début, on pense que finalement, c'est une affaire de gros sous, hein, ce qui pouvait paraître plausible vu les finances des Émirats. Mais quand on entend vraiment des bruits quand même assez insistants qui consistaient à dire que finalement, chez Sunweb, on l'a un peu mis dehors parce qu'il ne voulait pas fournir certaines données, et que c'est justement hein, l'équipe que tu cites avec Gianetti, mais aussi avec Machin qui le récupère. Est-ce que ça, c'est pas un signal inquiétant, comme quand on cause avec des directeurs sportifs qui nous expliquent finalement en off que bah, les contrôleurs compétition, il n'y en a plus en fait. Donc, moi, tu vois, c'est tous ces petits trucs-là combinés à d'autres choses aussi qui m'amènent vraiment à m'interroger et à me dire qu'en ce moment, ça pue un peu quand même, hein, pas du tout comme dans les années 2000 ou les années 90, loin de là. Mais je sens qu'il y a un petit truc qui sent pas très bon quand même, quoi.
Il y a deux choses. Il y a d'une part l'époque qu'on traverse, qui effectivement, y compris l'année dernière, n'a pas été correcte en termes de contrôle antidopage, pour des raisons évidentes.
Ah oui, tout à fait.
Bon, certains en ont profité, je pose la question, c'est fort probable.
Mais là, pour les contrôleurs compétition, je parlais depuis le 1er janvier, en fait, où des mecs te disent que bah, ils n'ont pas vu de commissaire, quoi.
Ouais. Là, je me méfie un peu plus. J'en sais rien. Mais ça me paraît un peu plus. Pourquoi ? Et pourquoi donc ? Tu sais, les contrôles sont organisés de telle façon que ce sont les équipes, quand même, qui abondent un fonds qui permet de financer les contrôles antidopage. Donc, via la fondation maintenant remplacée par comment ça s'appelle ? ITU, c'est ça ? Donc, bref. Donc, ça, c'est financé finalement par les équipes. Pas directement, mais elles payent cher. Comment peut-on faire payer les équipes sans les contrôler à l'autre bout de la chaîne ? C'est pas possible. Donc, c'est bien fait normalement. Je dis normalement.
Il y a c'est-à-dire peut-être plus de vols pour aller aux Canaries. Je sais pas.
On doit justifier un nombre de contrôles. C'est fait, hein, d'ailleurs. C'est fait. Il y a un document. Moi, je ne l'ai pas, mais je l'ai vu. En tout cas, une fois, on me l'a montré. Il y a un document qui existe, qui récapitule justement pour justifier, entre guillemets, l'adhésion des équipes, l'adhésion financière des équipes, qui leur est fournie a posteriori pour dire voilà, un document analytique qui dit bah, voilà comment s'est passé cette année, temps de contrôle, de hors compétition, en compétition, etc., etc. Ma foi, ça m'avait l'air, quand j'avais vu ce document, j'avais trouvé que c'était assez complet, assez bien fait, assez voilà. Bref, les gens payent très cher, les équipes, pardon, payent très cher, on justifie ces dépenses. Donc, pour répondre à ta question, autant je pense que la pandémie a totalement désorganisé le truc, autant je ne pense qu'on en rajoute peut-être un petit peu, que les coureurs en rajoutent peut-être un petit peu en disant qu'ils ne sont plus contrôlés depuis le 1er janvier de l'année dernière. Il y a des coureurs qui sont moins contrôlés que d'autres, tout simplement parce qu'il y a des coureurs qui ont des paramètres moins suspects que d'autres. Enfin, moi, c'est ce que j'ai toujours cru, depuis en tout cas que le passeport biologique est mis en place.
Justement, il y avait une question, Patrick, ouais, sur le forum.
Sur ça. Ouais,
vas-y, Greg.
Est-ce que justement le passeport biologique, est-ce qu'il a atteint ses limites ou non ? Alors même si on voit parfois la différence, hein, ce qu'il n'avait pas et d'un coup, des fois, il passe en Conti Pro et on sent de suite que ce n'est plus la même chose. Ou est-ce que ben, voilà, maintenant, les coureurs ou leur entourage ont toujours des moyens, trouvent toujours des moyens les plus subtils pour contourner la difficulté ?
Le passeport biologique, il existe toujours et une équipe scrupuleuse demandera à avoir toutes les données médicales du coureur avant de lui faire signer un contrat. Il y a peut-être des équipes qui sont moins scrupuleuses, qui voient un passeport qui n'est pas nickel et qui malgré tout font signer le coureur. Il ne faut pas oublier que si le passeport, on note des anomalies dans le passeport, ce n'est pas au moment des transferts qu'on doit sévir ou qu'on doit s'en rendre compte. C'est tout simplement comment dire, l'agence antidopage qui doit faire son boulot. Donc il y a peut-être un problème à ce niveau-là, mais je ne suis pas sûr, franchement, pour les équipes. Oui, alors après, tu évoques l'histoire des équipes ou des coureurs plutôt qui ne sont pas soumis au passeport biologique. Parce qu'elles viennent, parce que les coureurs sortent de Conti, parce que maintenant on voit des coureurs arriver de chez les juniors passer directement pro. Enfin, ça a toujours existé, mais c'est quand même un petit peu plus fréquent. Oui, ça pose un problème. Ça pose un problème. Moi, ce qui me surprend et ce que je trouve aussi, on parlait des éléments indirects qui font un peu peur. Il y a un truc qui m'a toujours étonné, c'est que si on regarde certaines équipes et pas des moindres. Moi, je constate qu'il y a des équipes, quand le coureur est dans cette équipe, il pétrole, et dès qu'il quitte cette équipe, il n'avance plus, jamais. Il y a des coureurs en quittant des équipes qui sont quasiment finis. Et ça, j'avoue que j'ai du mal à comprendre. Pardon, hein, ne me demandez pas de citer des noms.
Moi, je pense qu'on a tous la même équipe en tête.
On l'a compris.
Dans le passé, on disait ça du S-Postal. Et c'était vrai. Non seulement. D'ailleurs, les mecs, non seulement les mecs ne marchaient plus, mais en plus ils se faisaient gauler par la patrouille. Et on se demande s'il n'y avait pas de la délation en plus. Non, j'exagère parce que je n'ai jamais piffé Johan Brunel. Mais voilà, ça me surprend un petit peu. Ça m'interpelle. Ça me gêne.
D'autres questions, les gars, par rapport à cette.
Ouais, sur. Bah, une question un petit peu qui est en relation, on voit de plus en plus de jeunes coureurs arriver, bah, très très jeunes justement, performer très rapidement. D'une part, est-ce que ça te surprend, Patrick ? Et d'autre part, est-ce que tu penses qu'ils auront la caisse pour faire une carrière assez longue et pas, on va dire, arriver à bout de souffle à 27-28 ans ?
Il y a plein de sujets dans ta question.
Ouais, justement.
Bon, le sujet du jeunisme, de cette espèce de génération spontanée, je ne sais pas vraiment l'expliquer.
Mais on n'a pas encore assez de recul, je pense, non ?
C'est vrai. Je pense qu'il ne faut pas non plus chercher une seule explication. J'aime bien l'approche de Cyril Guimard. Vous me verrez souvent dire du bien de Cyril Guimard parce que je considère que Cyril est un sage. Bon, masqué parfois par beaucoup de délire. Ou de provoque ou tout ce que vous voulez, mais il y a un fond de sagesse sans équivalent dans le paysage français du vélo, et Cyril Guimard l'incarne complètement. Quand il dit qu'à l'étranger, on ne prépare plus les jeunes coureurs comme on continue à le faire en France, il a raison. C'est factuel, c'est pas un délire, c'est pas un délire de vieux schnock, c'est la vérité. Quand il dit qu'en France, on continue à avoir des braquets limités alors que ce n'est plus le cas en fonction de l'âge, alors que ce n'est plus le cas à l'étranger, il a raison. Est-ce qu'il faut changer ça ou pas ? Je ne suis pas compétent, moi, pour dire ça. Mais lui, il invoque ça comme l'une des explications. Bon, c'est pas très sensationnel comme explication. En tout cas, ça fait fi de toutes les rumeurs qui pourraient courir sur un dopage dès le plus jeune âge, par exemple. Moi, je ne sais pas expliquer pourquoi il y a tant de jeunes qui fonctionnent comme ça. Et à ma connaissance, personne n'est capable de donner une explication complète sur la question. Il y avait d'autres, ça a éveillé d'autres sujets, ta question. Malheureusement, j'ai perdu le fil et je vais pas pouvoir développer davantage.
Notamment, si tu veux, est-ce que tu penses qu'ils seront capables d'avoir une carrière assez longue et de pas, on va dire, arriver un petit peu à bout de souffle vers
Cramé à
27-28 ans?
25 ans, quoi.
Ouais.
Ouais. Merci de m'avoir remis dans le droit chemin. Bah, tu as raison. Alors là, pour le coup, on manque de recul, mais on voit bien, indépendamment du fait qu'ils sont jeunes ou pas jeunes, qu'aujourd'hui, par rapport à il y a 20 ans, le vélo est beaucoup plus porté sur la performance, le coureur est beaucoup plus concentré sur ce qu'il a à faire, il y a beaucoup moins de libre arbitre. Tout ce que je vous dis là, ce n'est pas des scoops, hein. Moi, j'ai fait dans ma vie une seule fois un documentaire avec Pierre-Henri Manteaur et Isabelle Ostaleri. On en parlait, c'était un peu le sujet. C'était de montrer finalement que les anciens coureurs se reconnaissaient dans les jeunes coureurs, mais que les jeunes ne se reconnaissaient plus dans les anciens. Et à la fin du documentaire, on se rendait compte que c'était plutôt le contraire. C'est qu'une fois les anciens ont pris conscience de ce qu'était aujourd'hui le métier, c'est là qu'ils ne se reconnaissent plus chez ces jeunes coureurs, les coureurs d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est un métier extrêmement difficile, où on est fliqué en permanence, où on doit mettre tous ses entraînements, tout ce qu'on fait, même d'ailleurs entraînement ou pas entraînement, mais bref, toute sa vie est transmise quasiment sous forme de data à son entraîneur. J'exagère, hein, un peu, mais pas tant que ça. Et à côté de ça, on a effectivement des phénomènes de burn-out, de coureurs qui sont, enfin burn-out, le mot est un peu peut-être excessif, hein, parfois, en tout cas dans tous les exemples qu'on a en tête, je suis pas sûr qu'à chaque fois ce soit un burn-out, mais quoi qu'il en soit, ça lâche un peu dans la tête, et le mec, il a juste tout simplement plus envie. Mais le burn-out, il frappe pas forcément le jeune coureur. Bradley Wiggins, il a gagné le Tour de France, l'année suivante, il pouvait plus. Alors je sais pas ce qu'il a fait pour gagner le Tour de France, ce que je sais, c'est qu'il n'était pas prêt à le refaire une deuxième fois. Il le dit assez librement. Donc, oui, ce qu'on demande aux athlètes est de plus en plus important. Ça existe dans tous les sports, dans le tennis, dans tous ces sports où il y a comment dire, une sollicitation psychologique qui est quand même hyper importante. Oui, ça finit par lâcher, probablement davantage aujourd'hui qu'il y a 20 ans ou même 40 ans. Mais tu vois, ce n'est pas le même sujet que ce que l'on évoquait auparavant.
Ouais.
C'est un autre problème.
Alors je vois que l'heure tourne, donc on va peut-être passer à la troisième partie, la dernière, celle sur les droits télé. Patrick, vous aviez l'an passé un calendrier de course très très fourni. Alors plutôt que de parler de la reprise des droits par Eurosport, moi il y avait une question sur le forum. C'est est-ce que la chaîne L'Équipe avait les moyens de mettre un petit peu plus pour garder ses droits? Ou est-ce que c'était tout simplement injouable avec Discovery de s'aligner, ou est-ce que ça avait un intérêt aussi tout simplement pour vous?
Bon, déjà, un propos liminaire. Moi, autant j'essaie de filer des coups de main sur les courses françaises par étape à la chaîne. Autant en ce qui concerne les droits, je dirais les gros droits avec les gros détenteurs, style IMG, je suis pas dans le. Je suis comme tous les gens qui travaillent sur le vélo dans la chaîne L'Équipe. Je suis ça un peu en tant que spectateur. Je suis mis au courant une fois que la foire est terminée, en quelque sorte. Mais il est évident, ce que je peux dire, c'est qu'il est évident que la chaîne voulait garder ces droits-là. Comment pourrait-il en être autrement? Ça fait des audiences de malade. Elles étaient tellement bonnes, je peux vous dire d'ailleurs, elles étaient tellement bonnes les dernières audiences, là, cette année, enfin l'année dernière plutôt, qu'on ne voulait pas communiquer dessus pour pas justement que
Faire
ça
monter
donne
les...
l'idée, mais bien sûr, faire monter les enchères. Bon, donc, mais on était très contents. Enfin, mes chefs étaient très contents. Et moi aussi d'ailleurs. Mais voilà. Donc ça, c'est aujourd'hui, si on doit retenir un truc, c'est que oui, il voulait garder les droits. Donc quand une chaîne veut garder des droits qui lui apportent que de la satisfaction, bah, en général, si son économie lui permet, j'imagine qu'elle met un petit peu plus, qu'elle va avoir tendance à surenchérir sur l'offre en se disant bah, si on veut garder ça, etc. Mais à la limite, je n'en sais rien. C'est ma logique qui fonctionne comme ça. Ce que je sais, c'est que là aussi, c'est factuel. D'un côté, on a L'Équipe qui est une chaîne française, franco-française. De l'autre, on a Discovery, qui est un groupe multinational, avec une diffusion monde, et que l'offre qui a été faite à IMG, donc détenteur des droits des courses RCS, c'était une offre pour le monde entier. Ça a traîné, pourquoi? Parce que déjà, il y avait un petit désaccord entre RCS et IMG. RCS trouvait que IMG peut-être pouvait devrait peut-être aller chercher plus d'argent, j'en sais rien. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Ce que je sais, c'est qu'entre eux, ils ont eu du mal à renouveler l'accord. Et vous l'avez vu, ça a été rendu public. À un moment, pof, ça a été rendu public. L'accord a été passé. À ce moment-là, eh bien, ils ont finalisé avec Eurosport, avec qui, je pense, ils avaient de toute façon déjà bien préparé le terrain. Mais nous, c'était pas une surprise, hein, quand on a appris ça faisait un an qu'on savait que Eurosport voulait les droits sur le monde et que nous, on pouvait faire qu'une proposition sur la France. Comment vous voulez qu'on fasse? J'entends des gens avec le hashtag l'équipe vélo, mais sur le forum aussi de Vélo Club, j'y vais de temps en temps, qui s'indignent qu'on n'ait pas cherché à les garder. Ben, mais ça va pas, non? Mais bien sûr qu'on voulait les garder, ces droits. Mais c'est le pot de fer contre le pot de terre. Comment peut-on garder, comment peut-on rivaliser avec un groupe mondial? On n'avait pas le choix, on ne pouvait pas. J'imagine, c'est évident, enfin, ça me paraît simple. Après, le mode de diffusion d'Eurosport, ça c'est un autre problème. Mais en ce qui concerne l'histoire des droits, alors, si je peux vous rassurer un peu, enfin, je ne sais pas si ça va vous rassurer, parce que finalement, il n'y a pas de motif d'être inquiet. Si, il y a un motif d'être inquiet sur les diffusions. Ouais. Mais ça, c'est pas mon problème. Le problème, c'est de savoir si l'équipe va vouloir continuer à faire du vélo en ayant perdu de belles courses. Là, je ne suis pas fondé à vous répondre, mais je prends quand même la liberté de vous le dire parce que j'ai des signes tangibles qui me laissent penser que oui, à 100%, l'équipe veut continuer dans le vélo et semble le démontrer, hein, sur les annonces. Alors, certains pourront faire la fine bouche et dire « Ah bah oui, ils sont gentils, ils annoncent des courses, bon, c'est sympatoche, mais c'est quand même pas le Giro qui ça ne remplace pas le Giro. » On est d'accord. Je pense qu'on a une année de transition. On aura peut-être un petit peu moins de vélo. On avait combien? 150 jours à peu près de vélo. J'ai pas fait les comptes récemment. Peut-être même, c'est peut-être monté jusqu'à 160, 170. Cette année, j'imagine qu'il y aura un petit peu moins. En plus, avec des courses annulées,
oui,
reportées.
Oui, en plus.
Mais en faisant fi de tout ça, moi, je pense sincèrement qu'il va y avoir un petit battement d'un an et on reviendra au niveau initial. Alors, en point UCI, ça sera peut-être pas la même chose. Mais si, dans un an, dans 2 ans, on peut montrer à quel point on est intéressé par les courses françaises, par étapes, à quel point le public est concerné. Les audiences sur le Tour de la Provence, c'était des audiences de malades mentales. Sur le Tour de la Provence, on faisait autant que sur une étape de montagne du Giro. On était, alors, il faut temporiser, on est en période... confinement ou pas confinement, en tout cas une période où les gens ont besoin, je pense, de se changer les idées, de se mettre devant du sport à la télé, tout marche bien en ce moment quasiment. Mais quand même, ça fait réfléchir. Je crois que globalement, les audiences augmentent quoi qu'on diffuse. Voilà.
Mais est-ce que c'est pas la bonne répartition, Patrick, au final, sur le long terme, les grosses courses internationales sur les chaînes payantes et bah, du coup les épreuves françaises en clair sur l'équipe ou sur France Télé?
J'ai pas compris ta question, pardon. Il y a un truc qui est passé sous mon nez.
Ah, pardon. Je disais, est-ce que c'est pas la répartition un peu idéale, entre guillemets, autant financièrement que je sais pas comment d'ailleurs, mais les grandes courses, tu sais, comme le Giro, la Vuelta, sur les chaînes payantes, parce que du coup, c'est trop cher, je pense. Enfin, comme tu le disais un peu, tu peux pas t'aligner sur une négociation à l'international. Et les courses françaises, bah, sur l'équipe, sur la chaîne L'Équipe.
Non, et d'ailleurs je t'ai lu, Charles. Je te tutoie, tu me vois, tu peux me tutoyer, ça me gêne de. Je sais pas trop.
Ah, je t'ai dit vous, non?
Ouais, mais n'hésite pas, on peut se tutoyer, on est quand même entre nous. Mais juste une chose, je t'ai lu sur le forum et j'ai vu.
Il faut pas parce que je dis pas mal de conneries sur le forum.
Non, tu défends ton point de vue, que je partage pas d'ailleurs. On a au moins un point de désaccord, c'est celui-là, et tant mieux, ça permet de discuter. Non, je pense pas. Je pense que. Comment dire, est-ce que je réponds par une boutade, est-ce que vous pensez que le modèle économique aujourd'hui uniquement sur la France, il est rentable pour Eurosport? Bien sûr que non.
Bah surtout si tu fais 6 000 sur l'estradé, oui, je vois pas ton cas.
Et combien tu crois qu'ils ont fait sur Milan-San Remo?
20 000,
Un
non?
peu plus. Mais donc c'est pas. Moi, j'ai pas donné de chiffres. Ce serait pas bien. Mais
On a tous entendu les mêmes, je pense.
non, non. Mais je ferai pas de commentaire là-dessus. Mais peu importe le chiffre, ça peut pas être à la hauteur de ce que fait la télévision. D'ailleurs, méfions-nous des audiences. Hein. Les audiences qui sont communiquées, les chiffres qui sont communiqués. Moi, je lis des trucs, c'est du grand n'importe quoi. Non pas que les chiffres sont faux, mais regardez bien les lignes et tous les mots qui sont utilisés. On confond le reach, on confond les audiences. Enfin, bref, quand vous regardez les audiences, faites très attention. Il y a plusieurs façons de calculer une audience. C'est-à-dire que vous pouvez choisir de dire, bah, tiens, on a fait 5 heures de programme, et vous allez avoir la somme de tous les gens qui se sont à un moment ou un autre connectés à leur télévision, cumulés avec ceux qui se sont connectés sur leur écran, cumulés avec ceux qui se sont connectés sur leur appli, et tout cela tout au long de l'après-midi. On additionne en fait. On additionne pendant 5 heures. Tous ces gens qui sont arrivés, on ne regarde pas s'ils sont repartis, on ne regarde pas, etc. Ça, c'est une façon de calculer les audiences, ça s'appelle le reach. Et puis, il y a une autre façon de calculer les audiences, c'est de dire à l'instant T, au quart d'heure, à la minute, il y avait combien de personnes? Et de structurer cette audience. Combien d'adultes, combien d'hommes, combien de femmes, combien, etc. La véritable façon, si on veut comparer, il faut que tout ce qu'on calcule de la même façon. Médiamétrie donne tout ça. Hein. Après, on choisit. On choisit dans son panier ce sur quoi on veut communiquer. Mais vous ne pouvez pas comparer une chaîne qui met en avant son reach et une chaîne qui met en avant ses audiences au quart d'heure par quart d'heure. En disant, par exemple, à l'arrivée, il y avait 1,5 million de personnes. Et en moyenne, on avait tant de personnes. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Et je vois circuler, mais pas seulement en sport, hein. Aujourd'hui, entre justement les chaînes payantes, les chaînes gratuites, etc., comme si les chaînes payantes voulaient nous démontrer qu'elles font autant d'audience que les chaînes gratuites. Ben non. France Télévisions fera toujours 20 fois plus que Eurosport parce que c'est une chaîne en clair. Enfin, je dis 20 fois plus, hein, on est d'accord, hein, c'est théorique, mais c'est le ratio, il est quand même plus près de 1 à 20 que de 1 à 5. Et la chaîne L'Équipe fera toujours aussi, comme c'est une chaîne en clair, pas autant que France Télévisions, mais fera, je sais pas, la moitié, même un peu mieux hein, quand même, que la moitié des audiences de France Télévisions. On fera mieux que la moitié. En tout cas, sur le vélo, je pense qu'on est un peu mieux. Donc c'est voilà, il y a des ordres de grandeur, vous ne pouvez pas les changer comme ça d'un coup de baguette magique. Et ce n'est pas le web. Et même une programmation formidable, parce que la programmation d'Eurosport, elle est juste. Elle fait rêver tous les fanats de vélo. C'est pas ça malgré tout qui va changer le modèle économique. C'est pas parce que vous avez toutes les courses internationales, toutes les courses qui méritent d'être vues à la télé, que le fanat qui va sur le forum de Vélo Club rêve d'avoir. C'est pas parce que vous avez toutes ces courses-là que vous allez avoir un abonnement en masse sur une plateforme. Ça suffit pas. C'est
Ah oui,
combien
bah
de
on le voit
personnes?
bien chez nous. De toute façon, bah tu l'as lu, je pense, il y a énormément de réticence par rapport au choix d'Eurosport.
Bah, là, j'ai pas, moi, j'ai pas à avoir d'avis là-dessus. Encore une fois, j'essaie de m'en tenir aux faits. On a la communauté des fanats de vélo. En gros, la communauté des gens qui veulent rater aucune grande course, aucune course de vélo, mais en particulier, bref, le mec qui peut pas se passer, par exemple, de Milan-San Remo ou du Tour des Flandres. C'est combien de personnes? Vous avez une idée à peu près? Moi, j'ai un chiffre en tête.
Bah, si tu en juges les chiffres de Milan-San Remo, c'est 20 000.
Non, c'est moins que ça. C'est moins que ça. Parce que sur Milan-San Remo, t'as pas que des. T'as à la fois des gens. T'as des gens qui vous regardent. T'as des gens qui étaient déjà abonnés, faut pas l'oublier. T'as des gens. Enfin, je sais pas comment est structuré. Et puis d'ailleurs, ce chiffre de 20 000, c'est toi qui me le sors. Moi, je veux pas le commenter. Mais ce que je sais en tout cas, c'est que les fanats de vélo, ils sont moins nombreux. Mais beaucoup moins nombreux. Le chiffre que j'ai en tête, et je peux pas vous le prouver, je l'ai pas. Voilà, c'est pas rationnel. Mais on voit quand même par des audiences, certaines audiences. Puis de toute façon, les audiences, quand elles sont trop minces, on a du mal à. Elles sont pas forcément hyper fiables.
Tu veux dire que
Mais quoi.
le vrai chiffre, il se rapproche plus de l'audience d'Estrade Bianche?
Oui, je pense qu'on est plutôt entre 5 et 10 000. Fanas de vélo. Les mecs picousés au vélo. Ouais. Ouais, on est plus là. Communauté qui est à peu près équivalente à celle du tennis. Donc. Voilà, on peut leur faire plaisir à mettre plein de courses. Et encore une fois, moi, franchement, je trouve que ça doit être un pied énorme de bosser pour Eurosport en ce moment. J'ai fait une série de tweets l'autre jour pour mais loin de moi l'idée, j'ai entendu après des gens qui disent bah forcément c'est chassé, il règle ses comptes. Mais je ne règle des comptes avec personne, je m'entends bien avec les gens d'Eurosport. Si un jour je me suis mal entendu, c'était avec une personne à Eurosport où il y avait un vrai problème. Donc j'ai pas de souci. Moi je suis pour qu'il y ait du vélo, je crois quand même l'avoir démontré, qu'il y ait de plus en plus de vélos à la télé partout. Vélop, c'est un moment, tiens, Nasser nous a pas taillé là-dessus, mais on a essayé de montrer du vélo français sur la chaîne L'Équipe, mais aussi sur Eurosport. Un week-end du Tour de l'Avenir, on a fait les Boucles de Romardèche, je sais qu'on a commencé sur Eurosport à produire. Bref, moi, plus il y aura du vélo sur les chaînes, quelles qu'elles soient, plus heureux je serai. Maintenant, je suis un peu attaché à L'Équipe, donc on va dire entre guillemets que je suis exclusif pour L'Équipe, ce serait quand même pas très élégant d'aller essayer de vendre du vélo à Eurosport alors que je bosse à L'Équipe. Mais après, j'ai mon regard de fan de vélo. C'est quand même une période géniale.
Ah bah
est-ce
carrément.
que vous savez est-ce que vous savez où on se situe par rapport aux autres sports en termes de diffusion?
Ah bah je pense qu'à part le tennis, on doit être vraiment bien. Parce que le tennis, si je... enfin après je suis pas beaucoup, mais j'ai l'impression que tous les tournois sont retransmis. Mais à part ça.
Non, t'as faux. Allez, quel est le sport qui en 2020 a été le plus diffusé? On parle des chaînes en clair parce que.
Ah en clair,
ouais,
ah oui, pardon,
en clair.
j'étais pas.
Ben oui, encore une fois, on parle d'audience. On parle. Pourquoi en clair? C'est pas pour exclure, mais beIN Sport, si je te dis que France Télévisions c'est 20 fois plus qu'Eurosport, mais beIN Sport, alors c'est je sais pas, c'est 50 fois plus, 100 fois plus.
En clair, bah, je sais pas, le biathlon, non, il y en a eu pas mal.
Non.
Non?
Oh les gars, vous chambrez tout le temps parce qu'on en montre trop.
La pétanque.
Mais bien sûr.
C'est génial,
Greg,
la pétanque.
Bravo,
comme par hasard, c'est un Marseillais qui répond à la question, tiens.
Ah oui, parce que voilà, il le respire, mais la pétanque, devant qui?
Devant le vélo.
Devant le vélo. Et en troisième, le foot. Donc ça, c'est une étude qui est faite par une agence, hein, je pourrais vous retrouver qui fait ça. C'est assez sérieux, ça fait des années qu'ils font ça. Et il ne faut pas oublier, moi je dis, j'entends toutes les critiques, je ne suis pas là pour défendre forcément l'équipe, j'espère pouvoir dire du bien. J'essaye de le faire d'Eurosport parce que franchement, il le mérite. Mais si aujourd'hui le vélo est le deuxième sport, voire le premier, parce que si on n'a pas de confinement, je pense que le vélo sera premier. Enfin, là, on est mal parti pour 2021, mais on verra. Sincèrement, si le vélo est devenu le sport le plus diffusé, ce n'est pas à cause d'Eurosport, puisque ce n'est précisément pas pris en ligne de compte. Certains trouveront ça injuste, mais encore une fois, on parle d'une audience massive. Eh bien, oui, c'est grâce à la chaîne L'Équipe si aujourd'hui le vélo est devant le foot en heure de diffusion. Et ça, c'est important. Si vous voulez faire aimer demain le vélo, même si chassé, il est mauvais pour reconnaître les coureurs, eh bien, mine de rien, cette chaîne, elle fait malgré tout, il faudra peut-être virer chassé, mais elle continue à faire beaucoup de bien pour ce sport parce qu'elle fait envie à des gens, je ne parle pas forcément des gamins, de faire du vélo, mais aussi à leurs parents, leurs grands-parents, de regarder ce sport. Et ça, ça n'a pas de prix. Je comprends que vous soyez passionné, que vous râliez quand ce n'est pas en direct, mais même c'est sans... quand vous montrez Grand Wevelgem féminin avec une semaine de retard, ce qui est le cas, hein, je l'ai enregistré ce commentaire avec Emmanuel Merlot, eh bien, même si ça passe avec une semaine de retard, il y a des gens qui le regardent comme si ça avait eu lieu cet après-midi. Et vous savez quoi? Il y a des gens qui vont même aimer le vélo grâce à ça, même en voyant la course. Ce que je dis là n'est pas contradictoire avec la volonté du fan. Je dis juste qu'il ne faut pas qu'une logique écrase une autre. Il ne faut pas penser que... Voilà. Et Charles, moi j'adore le biathlon depuis un an à peu près. Avant je n'aimais pas. Et je m'y suis mis. Voilà, je suis tombé dedans.
Moi j'aimais bien avant.
Bon, j'arrête parce que vous m'invitez, vous êtes vachement sympa. En plus, la bière est bonne, mais
mais ça, tu ne devais pas le dire parce que
sur un terrain vachement délicat.
On a choisi l'audio pour pas voir les bières, justement, c'est ça.
Mais oui, mais c'est la Buclair de Jacques Lyon.
Ah, la fameuse Buclair. Ouais. Les gars, des questions à Patrick sur cette question des droits télé.
Non, justement. Sur les courses françaises, puisque c'est vers ça que s'oriente l'équipe, est-ce qu'il y a des courses non diffusées et ton projet ou le projet de l'équipe, c'est d'en diffuser le plus possible de ces courses françaises, eh bien, qui ne sont pas encore diffusées?
Oui, bien sûr. Après, il y a des courses qui n'arriveront jamais. Alors, encore une fois, je crois que j'ai eu l'occasion de vous le dire, si ces courses françaises, elles accèdent à la télé, c'est parce qu'il y a des organisateurs qui sont capables aussi d'aller chercher le financement. On est dans une logique, et là, il n'y a pas de scandale. Ce que donne l'équipe, certes, ce n'est pas du financement pour payer la... Enfin, ils en donnent, hein, attention, hein, c'est pas, on n'arrive pas les mains dans les poches, on s'assoit et tout a été, et comment dire, l'organisateur paye sa tournée, c'est pas tout à fait ça. Il y a quand même une participation non négligeable de la chaîne, y compris sur le plan financier, sûrement, je ne m'emmenais pas sur ce terrain-là. Mais ce que je veux vous dire, c'est que l'équipe, en offrant une audience massive à des partenaires d'un organisateur, permet de valoriser l'événement, permet aussi d'avoir des sponsors entrants. Donc des entrants qui n'étaient pas là auparavant, mais parce qu'il y a la télévision, vont venir en soutien de cet organisateur pour avoir évidemment une visibilité, etc. Associé à un événement grand public. Et ça existe, ça marche. Qu'est-ce que vous croyez? Que les boucles de la Mayenne continueraient à être financées comme ça, avec quoi? Avec uniquement de l'argent public? Et le Tour du Limousin, ok, ils ont une belle course, c'est au mois d'août. Vous croyez qu'ils ne se sont pas bougé le cul pour trouver du financement? Mais s'ils l'ont trouvé, ils ont peut-être plus de facilité à le trouver après avec 2, 3, 4 ans d'ancienneté, d'antériorité, qu'à l'issue de la première année. Ça se construit dans la durée. Et je trouve que c'est assez vertueux. Et ça, encore une fois, c'est possible parce qu'on est sur une chaîne en clair, avec des audiences assez importantes, parce que c'est une chaîne en clair. Le schéma, moi, je l'avais construit il y a 10 ans avec mon collaborateur à l'époque, Philippe Audry, avec qui on avait monté Velops. On l'avait construit pour une chaîne payante. Ben, je peux vous dire qu'on a revu notre copie. Hein. Après, maintenant, attention, hein, ce n'est pas moi le Manitou hein, qui ai fait tout ça. Moi, j'ai juste impulsé l'idée au départ, et l'équipe a adhéré, et maintenant, ils se débrouillent très bien. Hein. Ils n'ont pas besoin de moi pour développer le projet. Ils le font très bien. Il y a un patron des acquisitions, il s'appelle Nicolas Manissier. Je peux vous dire que quand je vois sa motivation, j'ai compris que le vélo, ça les intéresse toujours. Hein. Il n'y a pas de problème.
Ouais, moi, si les gars n'ont plus de questions, j'en avais une, Patrick, parce que vous avez diffusé à travers la Flandre et Gant Wevelgem en codiffusion. Est-ce que c'est une possibilité cette année ou dans les années à venir de bah justement d'avoir de la codiffusion avec Eurosport comme France Télé?
Ça a toujours été, en tout cas, ça fait pas mal d'années que ça existe. La force de l'équipe, enfin la force, ils n'ont pas grand mérite à ça, il faut bien être honnête, c'est de dire, nous, on ne cherche pas l'exclusivité. Bah oui, forcément, tu ne cherches pas l'exclusivité, tout le monde peut, il suffit d'appuyer sur la zapette et hop, t'as rien à payer. On est gratuit, donc on n'a pas besoin d'exclusivité. Et il y a un truc que j'ai appris il y a bien longtemps, c'est qu'entre, c'est un peu bête, hein, et ça va peut-être défriser ceux qui n'aiment pas trop mes commentaires, mais il y a un réflexe, c'est qu'entre le gratuit et le payant, ben, même si on est abonné, eh ben, on a quand même tendance à aller vers le gratuit. Moi, je me souviens, Eurosport, il s'arrachait les cheveux à l'époque avec Roland Garros. Il y avait franchement, les commentaires de tennis sur Roland Garros, sur Eurosport. Je dis pas que c'est pas bien. Maintenant, d'ailleurs, je me demande si c'est pas toujours le même qui commente. Mais quoi qu'il en soit, c'était vachement. On se marrait, c'était drôle. Il y avait un truc vraiment abouti. Et on était furax parce qu'on voyait qu'il y avait toujours plus de monde sur France Télévisions. Et forcément, nous, on était pour notre chapelle et on disait, mais quand même, c'est 10 fois mieux chez nous, quoi. Eh ben non, parce qu'il y avait quand même malgré tout. Les gens s'abonnaient à Eurosport, regardaient tous les tournois sur Eurosport, tous ceux qui étaient un peu en exclusivité, enfin en semaine ou je sais pas quoi. Et pof, il y avait Roland Garros qui arrivait et retournait sur le service public. Et ben voilà, j'y peux rien, c'est comme ça. C'est peut-être une histoire de numérotation, sur des chaînes, j'en sais rien. Mais je sais qu'il y a un réflexe vers le.
C'est vrai que j'ai regardé le
Vers
Tour
le.
des Flandres sur France Télé, j'y pense tout à coup.
Moi aussi, ouais.
Bah moi, je sais pas comment vous faites, moi je passe mon temps à aller de l'un à
Bah pendant les
l'autre.
pubs, ça je change.
Voilà, exactement, oui, pendant les pubs. Sinon, on fait en fonction des commentateurs, sinon.
Je dirais pas pourquoi j'ai pas regardé là sur Eurosport.
Non, mais. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que on a. Alors, pour répondre à ta question, n'y a pas de problème. Là où c'est difficile, c'est de diffuser une course avec France Télévisions. Parce que ce sont deux chaînes
Oui.
en clair. Donc là, oui, il y a une
Là, il y
concurrence.
a une vraie concurrence.
Là, il y a forcément. Enfin, une vraie concurrence. Il y a forcément une concurrence importante. Alors, je ne vais pas te dire qu'on se bat pour le Tour de la Provence ou que sais-je. Mais oui,
Peut-être
sur.
plus une codiffusion si c'est un France 3 Région, par exemple, non?
Voilà, ça peut peut-être s'envisager, mais je pense que ça gênera plus France 3 Régions
Ouais, que vous, quoi.
que l'équipe. Eurosport aussi, ça doit pas leur faire plaisir quand on fait une course, en tout cas sur Eurosport France, hein, sur la chaîne d'équipe, parce qu'il y a ce que je viens de décrire. Mais faut pas oublier qu'Eurosport, c'est une formidable fenêtre sur l'étranger. Et donc, le bon compromis, c'est en tout cas pour l'organisateur, c'est d'avoir Eurosport pour la fenêtre à l'étranger, pour le tourisme, etc. Bref, la carte postale, c'est juste. Enfin, ça peut être très important. Et puis d'avoir une audience substantielle avec l'équipe. Mais ça oblige à faire un peu le sacrifice d'une audience sur Eurosport France. Ouais, ça va les gars, soyez cool, quoi. Avec tout le vélo que vous avez, vous pouvez bien
Nous en
faire une
lâcher une ou
passe
deux, quoi.
sur quelques courses. Mais ouais, voilà, on s'entend bien. Hein, Guigui? Allez, on fait un effort.
Ben, s'ils mettent Eurosport sur le player, Eurosport, s'ils mettent le Giro sur le player, il y a peut-être un créneau.
Je sais pas.
Non, je rigole, mais bon.
je sais, je sais, je sais.
Mais c'est ce qui est sorti aujourd'hui, d'ailleurs, si j'ai bien compris. Hein. C'est que ça serait sur le player.
Et qu'est-ce que tu penses aussi des réseaux comme Twitch ou des diffusions peut-être de cours sur YouTube plus confidentiels qui se développent? Ah, oui. C'était quoi? Oui, c'était hier, il y a eu le Grand Prix de la municipalité de Couëron qui a fait 13 000 vues. Une course amateur, mais je trouve ça énorme pour une course amateur. Enfin, c'est pas en direct, hein, les 13 000 vues, mais depuis, il y a eu 13 000 vues. Qu'est-ce que tu penses? On a vu sur Twitch aussi, il y a David Godu qui est apparu, enfin, c'était sur Zwift, donc c'est
Ouais.
pas une vraie course, mais qui a fait aussi pas mal d'audience.
Ouais, alors déjà, c'est deux formats qui n'ont rien à voir. Hein. Il y en a un, c'est une course, enfin, ou une course, mais avec il n'y a pas de moyen de retransmission comme une course de direct. Et puis de l'autre côté, c'est une émission, c'est un one shot, mais je l'ai regardé d'ailleurs. C'est une émission. Bah, écoute, moi, ces plateformes, de toute façon, on sait que les habitudes, elles ont déjà changé. Les habitudes du téléspectateur, du consommateur de vélo, là je parle des événements cyclistes, hein, des courses, changent. Vous, quand je dis vous, c'est on va dire le fan. Mais même monsieur tout le monde, alors peut-être pas les personnes les générations un peu plus anciennes qui veulent, qui n'ont pas forcément envie de changer de mode de fonctionnement, et encore que pas toujours, enfin, ça peut quand même, ça peut gagner, ça peut comment dire, empiéter sur ces tranches d'âge, mais ça change. Moi, je sais pas vous, mais moi j'ai 55 ans, je me mets plus du tout devant la télévision, mais plus du tout. La télévision, je la regarde sur un écran d'ordinateur. C'est moins bien, mais c'est plus pratique. Si je me fous devant la télévision, si j'ai la télévision à portée, que je peux rester devant, que j'ai rien d'autre à faire, que voilà. Et ça, c'était inconcevable avant. C'était inconcevable il y a 10 ans. Donc, on voit bien quand même que les modes de consommation changent. Donc, comment va être organisé dans 10 ans vous savez, il faut faire gaffe parce que les bonnes idées, elles mettent généralement 10 ans à arriver à maturité. C'est-à-dire que si aujourd'hui on perçoit à travers ce que veut faire Eurosport et sa plateforme digitale Discovery Plus, hein, c'est bien ça, ils vont peut-être mettre, j'en sais rien, hein, c'est une question, enfin c'est une hypothèse, ne vont-ils pas mettre 10 ans à la mettre réellement en place? Et qu'est-ce qui se passe pendant 10 ans? Et admettons que ça ne mette pas 10 ans pour être une. Quand je dis mettre en place, c'est-à-dire que tout le monde, en gros, et sa plateforme Discovery, que quand tu veux regarder du sport, tu mets Discovery. Qu'est-ce qui va se passer pendant ces 10 ans? Ben, on va être dans un entre-deux. On va être avec des gens qui vont râler parce qu'ils ont payé un abonnement, mais voilà, on leur demande en plus de payer, puis ils ne le voient pas forcément dans de bonnes conditions, parce qu'il ne faut pas oublier en plus qu'il y a le problème de la réception,
Oui, parce
pas
que tous ceux qui sont
réglé.
abonnés via le satellite, ils ne peuvent pas avoir accès au player si leur connexion Internet n'est pas assez
Et
forte.
ça représente, enfin,
C'est pas
pour
beaucoup de
vivre en
gens, hein, mais...
France, ça, ah, c'est énormément de gens, tu rigoles ou quoi?
Le satellite? Ah, je sais pas, moi j'ai jamais eu.
Mais non, mais les gens qui ont une mauvaise connexion
C'est le problème d'être un
Internet.
citadin, en fait.
Bah oui, c'est ça. C'est qu'on a tendance à. Mais tu sais, je connais des villes où c'est pas génial, hein. Y
Ah oui?
compris des villes près de Paris, hein, où des gens ont des problèmes pour regarder un flux télé sur un ordinateur. Pas très loin de la Défense. Ça paraît extraordinaire, mais ça existe. Donc, voilà. Mais je doute pas que ça va s'arranger, hein, et qu'on y arrivera. Mais en attendant, il se passe quoi? Et on fait comment? Là, la logique, elle est avant tout économique. Mais voilà, mais je sais que pour plein de gens, je suis sûr, Charles, que tu as tous les abonnements, et j'imagine que Greg et Alex aussi, hein, vous avez tous vos abonnements pour voir tout le vélo. Et
Ah bah
regardez, il y
oui.
a 10 ans, on regardait un stream pirate un peu pourri pour voir une course espagnole qui était diffusée ni sur Eurosport, ni sur L'Équipe, ni sur ni nulle part, ni sur Sport Plus à l'époque, et on allait regarder un stream pourri, complètement pixelisé, on reconnaissait personne. Moi, là, j'avais une excuse, mais voilà quoi.
Ah bah là oui, moi clairement, je me suis même pas posé la question pour Sport Player vu le coup. Enfin,
Charlie s'est même abonné à Téléfoot, le seul en France, alors.
Mais j'ai pas été con parce qu'il y a des gens qui ont pris l'engagement d'un an, donc je m'inscris en faux. Moi, j'ai été quand même assez fin pour faire du mois par mois.
Non, il y a d'un côté le coût que ça peut représenter. Moi, je pense qu'on fait toujours pareil, hein, les gens qui ont vraiment qui ont il y a des gens qui aiment le vélo, qui n'ont pas de sous, ils ont le droit d'aimer le vélo quand même. Mais je remarque souvent que les gens qui n'ont pas de sous, ce n'est pas ceux qu'on entend se plaindre, quoi. Ils n'ont même pas voilà, c'est pas pour autant qu'ils sont négligeables. Alors, je ne sais pas
Ah, tout à fait.
si le vélo est un produit essentiel ou non essentiel, mais moi, c'est quand même à ça que je pense en particulier. Mais attention, hein, encore une fois, moi, mon projet, c'était pour une chaîne comme beIN Sport, hein, à l'origine, il y a 10 ans. Donc j'étais pas. Moi aussi, hein, j'ai évolué. J'ai complètement changé d'avis parce que je me suis rendu compte que le modèle économique, en tout cas pour diffuser des courses françaises à la télé, eh bien, il était davantage conçu pour une chaîne gratuite que pour une chaîne payante. Et ta question, je pense que attention, parce que je pense, Charles, que tu as posé une excellente question tout à l'heure, à laquelle on n'a pas peut-être complètement la réponse, mais en tout cas, c'est la question. Est-ce que demain, ça sera comme le foot? Est-ce que pour voir la Champions League du vélo, on sera obligé de payer ou pas? Et c'est tout l'enjeu. Et quand je dis que c'est tout l'enjeu, c'est qu'on pourrait penser, bah oui, naturellement, ça va être comme pour le foot. Et bien, bah, si ça se passe comme ça, je pense que ce sera une très mauvaise. Et croyez-moi que ce n'est pas partisan par rapport à comment dire, à mon appartenance, entre guillemets, à la chaîne L'Équipe. C'est vraiment très objectif que je vous dis ça, que je vous livre ça. Ce serait une très mauvaise nouvelle pour le V.
Bah après, on a la chance dans le vélo qu'il y ait certains événements comme Paris-Roubaix, comme le Tour, qui sont protégés par la loi sur la diffusion en clair, quoi, ce qui limite quand même ce côté de Champions League. Où...
Bah, t'as raison, ça
Ouais.
limite vraiment à pas grand-chose. Hein.
Enfin, en quoi qu'il se passe, on verra toujours le Tour de France, tu vois, qui est quand même la grosse, grosse
Ouais.
vitrine
Alors, tu connais la liste?
des événements.
Ouais. Non, mais juste le vélo.
Bah, je crois qu'il y a Paris-Roubaix et le Tour de France, c'est tout, non? Peut-être les
Ouais, plus
mondiaux,
tout.
je sais pas.
Les Jeux et championnats du monde. Basta. Et championnats du monde uniquement la course en ligne. Des pros. Peut-être qu'ils ont mis les femmes. Je crois pas que cette liste elle ait été retouchée récemment.
Mais moi, je
Comment
pense
dire?
qu'il faut du vélo en clair. Hein. Je suis complètement d'accord
Oui,
avec
tu veux
toi. Et
juste que ce soit plus moi qui commente, j'ai bien compris.
quoi? Alors là.
Oui, j'ai compris, d'accord. Non, mais t'inquiète pas, je vais passer la main, ça va venir plus
Tu vas
vite
voir,
que.
demain, je vais faire un édito. Vivement que Patrick Chassé dégage.
Mais qui se prend-il?
Pour qui se prend-il?
Non, non, mais ce serait une très mauvaise nouvelle. Ce ne sera pas une mauvaise nouvelle, ce sera un retour en arrière. Et je pense que ce serait mal vécu. Moi, je crois qu'on a minimisé la. Je vais vous faire une confidence, j'en ai même fait un peu le reproche en interne à l'équipe. J'aurais aimé qu'on valorise plus ce que la chaîne a apporté dans la promotion d'une course comme le Giro auprès des organisateurs. C'est-à-dire qu'avant que ça tombe dans les mains des négociateurs de droit, IMG, tout ça, il y avait l'organisateur aussi qui avait son mot à dire. Et je pense qu'on lui a pas assez montré à quel point le groupe L'Équipe avait fait un effort de dingue. Vous vous rappelez la première fois, L'Équipe en rose? Mais L'Équipe en rose, le grand concurrent du Giro, parce que c'est quand même, ça a toujours été un énorme, comment dire, une grosse, enfin une vraie rivalité là, hein, entre le Giro et le Tour de France. Mais de toujours, que L'Équipe paraisse en rose. Mais putain, mais c'est. c'est Helmut Kohl et François Mitterrand main dans la main, quoi. C'est génial. Pour moi, c'était un super truc. Et tous ces gens qui ont découvert le Giro, ils connaissaient tous, mais ils ne l'avaient jamais vu, pour la plupart. Je parle de Monsieur Tout-le-Monde. Et on leur a donné l'habitude de le voir. Et puis là, on retire le truc. Bah, je trouve que le premier perdant là-dedans, bah, c'est le Giro.
Mais justement, c'est aussi un problème pour le football, la visibilité, parce qu'aujourd'hui, la Ligue des Champions, ben, ce soir, il y a un gros match, hein, mais enfin, il y a Manchester City qui joue, il y a Liverpool, il y a le Real, il y a des gros clubs qui jouent, mais qui regarde aujourd'hui ce soir le match?
Bah ouais, avant mon voisin, il me disait, écoute, on rend notre abonnement et puis on va voir ça au bistrot. Je crois qu'il avait, c'était la sagesse. C'est ce qu'on a fait. Puis maintenant, les bistrots sont
Il n'y a plus
fermés,
de
donc c'est
bistrot.
mort.
Ouais.
Avoir en plus, voilà. Donc il n'y a plus ça. Mais ça, enfin, je pense que même pour les clubs et les sponsors, perdre de la visibilité, ce n'est pas forcément une bonne chose.
Bien sûr que non. Bien sûr que non. Moi, je trouve. La Formule 1 est tombée. Alors, je ne sais pas si c'est uniquement chez moi, mais plus personne ne regarde la Formule 1.
C'est un peu hypé en ce moment, depuis 1 ou 2 ans, là.
On pourra dire que c'est moins excitant que ça ne l'a été. Et encore, franchement, je ne crois pas que ce soit le problème. Je crois
Mais
juste
Canal a
que.
diffusé la course en clair dimanche dernier.
Ouais. Oui,
Justement,
mais.
enfin.
Je ne suis pas sûr que tout le monde le sache.
Ouais.
Et
Non, moi
dans
je
le
le savais pas,
réflexe.
par exemple.
Voilà, moi, je. Donc. Ma réponse provisoire, Charles, par rapport à la question initiale que tu as posée, c'est de dire, y a pas, il faut pas être, y a pas une réponse blanc ou noir. Je pense que la vraie réponse, c'est qu'il y ait quand même du vélo gratuit et que ce ne soit pas réservé aux événements secondaires. Mais il faut qu'il y ait du premium et que ce premium ne se limite pas seulement aux trois ou quatre événements qui sont sur cette liste toute poussiéreuse qui dort dans un tiroir du CSA. Il faut qu'il y en ait un peu. Franchement, il faut qu'il y en ait un peu plus. Peut-être pas toujours les mêmes. Bien sûr, on sait les droits, ça va, ça vient. Mais je crois qu'une chaîne en clair, j'espère que ce sera l'équipe, continuera à se battre pour avoir du vélo. Enfin, bref, allez, des courses World Tour. Mais en te disant ça, je sais que le job est fait. C'est-à-dire, je sais que. Voilà. Je te dis, il y en a un qui est au taquet et qui va continuer à essayer d'aller chaparder du vélo dès que c'est disponible.
C'est plutôt une bonne nouvelle, ça, alors, du coup.
Bah, ça dépend. Si tu acceptes de m'écouter, ça sera une bonne
Bah moi, je
nouvelle.
t'écoute toujours. Moi, si je m'écoutais, je te foutrais sur toutes les courses que je regarde. Donc, comme ça.
Oh, ça finirait par être lassant.
Ouais. Oh, bah, je te couperais de temps en temps le son, puis ça serait pas
Oui,
mal.
bah voilà, c'est ça. Ouais. Je suis d'accord, moi. Je suis d'accord.
Non, moi, je rêve. Enfin, je rêve. Il a déjà existé la reconstitution du duo Patrick Chassé-Jacky Durand. Je pense que ça serait le truc ultime
Mais je lui ai dit, viens.
Les courses de vélo.
Écoute, qu'est-ce que tu veux lutter avec un mec qui est peinard sur son île
Oui. Qui commande de
au
l'île Maurice et qui est tranquille.
bureau? Attends, c'est quand même. Non, non, mais même si mais t'as raison. Je trouve que ce que j'aime beaucoup d'ailleurs la période qu'on vit actuellement. C'est-à-dire que, et là, c'est pas du. Moi, je m'en fous. Hein. Enfin, je m'en fous. Je suis un consommateur comme vous quelque part. Je prends vraiment plaisir à écouter différents commentaires. Alors bien sûr, je suis comme tout le monde, il y en a que j'aime plus ou moins, mais je trouve que c'est très dense par rapport à mon époque. On a le choix, et je dirais qu'on n'est pas obligé de choisir. C'est-à-dire que on a la diversité en fait. J'ai plaisir à écouter Jackie avec Di Grazia et Guillaume Di Grazia et Steve Chenel. Et puis comme voilà, bon après je suis pas objectif, c'est des mecs que j'ai côtoyés, avec qui j'ai bossé, j'aime bien écouter Alex Pasteur, je trouve que Marion Rousse, elle est épatante. Putain, qu'est-ce que j'aimerais avoir un bout de Marion Rousse pour pouvoir reconnaître un bout de cerveau de Marion Rousse pour pouvoir reconnaître les coureurs comme elle arrive à les
C'est
reconnaître.
impressionnant, c'est vrai que.
C'est impressionnant. Voilà, je trouve qu'il y a des choses à prendre chez beaucoup de gens. Peut-être pas tous, faut pas, je suis pas en train de faire de l'angélisme, mais chez beaucoup de gens
Peut-être pas tous,
que
non.
je trouve retrouver. Non, peut-être pas tous, pas déconner. Et là, t'attendais que je balance un nom? Ben
Ouais, c'est moi qui vais devoir le dire et puis c'est moi qui vais avoir des problèmes
non.
encore
Non,
après.
non, non, tu régleras ça.
Non, je ne dis plus rien. Et bien sûr, ces belles paroles, je pense qu'on peut clôturer l'émission, à moins que les gars vous ayez une dernière question pour Patrick.
Non, c'est très bien, merci.
Merci à
Très bien,
lui.
donc le nom Patrick de ceux qu'on n'écoute pas. Même à 23h, ça ne marche pas, tant pis.
Non, 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 non.
Eh bien,
Non, mais
cette...
honnêtement,
Ouais, vas-y,
honnêtement,
Patrick.
non, non, non. Juste la conclusion. Moi, je reste nostalgique aussi, figurez-vous, de commentateurs qu'on n'entend plus. Bon, je vais pas faire le bon vieux, hein, mais je pense à.
Henri
Je pense
Sagnier.
que Manu Barthes, il aurait beau. Il était bien meilleur quand il était à l'antenne. Ah, ça va te plaire, ça. Il était bien meilleur quand il était à l'antenne que maintenant qu'il est uniquement sur Twitter.
Ben ça, c'est pas une nouveauté.
Voilà. Qu'est-ce que je peux sortir comme... Non, mais voilà, et bien sûr, Fred Brindel, avec qui j'ai fait du vélo quand on était gamin, on se connaît depuis on était en culotte courte à l'époque, même s'il était plus jeune que moi, et Fred Brindel avait cette complicité, alors certains aimaient, certains croyaient qu'il s'engueulait avec Cyril Guimard, et je dois dire que au bout de l'ennui d'une course espagnole... Donc personne ne se souvient, ils arrivaient à la faire vivre, à se marrer. Et ma conclusion, c'est de dire que je suis ce dont je suis non pas le plus fier, parce que j'en suis pas responsable, c'est le ton général qui accompagne les commentaires de vélo. Alors peut-être pas sur France Télévisions, parce que France Télévisions, service public, tout ça, mais je trouve qu'il y a un ton bon enfant, quelle que soit la chaîne que l'on écoute quand on écoute du vélo, qui finalement est assez particulier à ce sport. Je ne vais pas dire que ça n'existe pas dans d'autres sports, mais sur le vélo, c'est tout le temps comme ça. C'est un sport qui est très bavard parce que le factuel, l'action n'est pas à toutes les secondes. Et du coup, eh bien, ça crée une convivialité, une proximité avec le public. Et c'est peut-être ça qui fait finalement l'une des spécificités du commentaire vélo et qui fait qu'on aime bien se mettre devant la téloche. Et ça, c'est vrai que... Bah, le côté bonhomme d'Alex Pasteur, les blagues à deux balles de Steve Chenel et les délires que nous aussi on peut faire de temps en temps sur la chaîne d'équipe, bah, quelque part, il y a je dirais, un point commun là, entre tout ça. C'est justement ce ton général qui consistera à penser que le vélo reste finalement non pas un sport, mais un jeu pour contredire tous ceux qui veulent nous faire croire que c'est un truc très sérieux ou très dur.
Et bien sur ces belles paroles, il me reste du coup à souhaiter une bonne soirée à tout le monde et puis à remercier Patrick d'avoir passé un bon petit moment avec nous. Au revoir à tous.
Merci à vous.
Salut tout le
Ciao.
monde.